là, voilà. Tov et Reftov les Koulam. Voilà, on revient dans notre étude du lundi soir avec Divac Mouel et le reste du monde. Vous savez, voilà, il y a des émissions comme ça, on fait Divac Mouel contre le reste du monde. Et on revient dans notre étude. Alors, on vient de sortir de Hanouka, de Vezot Hanouka. On a décidé que pour la reprise, on n'allait pas replonger directement dans notre sujet du Perek Relek. On reprendra très certainement la semaine prochaine. Mais là, on va préparer. Voilà, c'est exactement le thème du cours de ce soir. On aurait pu appeler le titre du cours. Peut-être que d'ailleurs, je vais même l'appeler comme ça dans le YouTube. Ezeu Chacham Aroé et Anolad. Il faut être absolument capable de voir le monde dans lequel on est et de prévoir le monde dans lequel il va, vers lequel il va. C'est-à-dire que ça va être ça tout le projet de notre étude de ce soir. Ezeu Chacham, qui est le sage, eh bien c'est celui qui arrive à se projeter dans l'avenir, tel qu'on peut voir dans Maseret Avot, dans le traité de Pirkei Avot, au chapitre 4, Mishnah 11. Alors de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? On va essayer de ne pas redire tout ce qu'on a déjà dit les années précédentes sur Asara Betevet, c'est-à-dire que je vais faire un récapitulatif de 5 minutes sur les raisons halakhico-historiques de Asara Betevet. Ce sont des choses qu'on connaît, de toute façon, d'une année à l'autre, elles ne vont pas changer. Donc, je fais juste un rappel pour que ce soit bien clair. Au niveau historique, il y a 3 raisons pour lesquelles on jeûne le jour du dit Tevet. Chronologiquement, ça sera d'abord le début du siège de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui vient assiéger la ville de Jérusalem en préambule à la destruction du premier temple. Et ça, on peut le retrouver dans le livre de Melachim et dans le livre de Yechezkel, puisqu'on va nous dire dans Melachim, Beth, au chapitre 25, verset 1, Vayehi bishnata teshit le molcho bechodesh ha'asiri be'asor lachodesh ban Nebuchadnezzar melech bavel ou vechol chelo al Yerushalayim veichan alea veevnu alea daik saviv. Donc, les choses sont claires. Nebuchadnezzar commence le siège de Jérusalem quelques 2 ans et demi avant la destruction de Jérusalem en l'an -588. Ok, donc ça c'est la première raison historique de Asara Betevet en tant que jeune. La deuxième raison historique de Asara Betevet en tant que jeune, eh bien nous la connaissons également, c'est la traduction de la Torah en grec. On vient de sortir de Hanouka, la fameuse Septante, la Septuaginta, le Targum HaShivim. On nous marque ici dans Maseret Megillah, dans le Talmud, à la page 9, Vekshesimu et Melechet Targum, ba Choshech laolam shlosha yamim, bechet, tet, veyud, betevet. Donc, la traduction de la Torah en grec amène les ténèbres dans le monde, et ça on a longuement expliqué dans les différents cours de Hanouka, qu'est-ce que cela signifiait, et c'était le dit Tevet. Donc ça c'est la deuxième raison du jeûne du dit Tevet. Et enfin, la troisième raison du jeûne du dit Tevet, beaucoup plus actuelle, puisque c'est en 1951 que le protocole officiel du Grand Rabbinat d'Israël va déterminer que le jour du dit Tevet sera ce qu'on appelle Yom HaKadish HaKlali, le jour du grand Kadish, c'est-à-dire toute personne qui a perdu un proche dans la Shoah, mais qui ne sait pas où et qui ne sait pas quand, eh bien, ce sera le dit Tevet qu'il pourra s'unir à la mémoire de son proche. On allumera des bougies, on fera Kadish et ainsi de suite. Donc voilà, pour ce qui est des 3 raisons historiques, début du siège pour le premier temps, la destruction du premier temple, traduction de la Torah en grec et on va dire Yom HaShoah en mode religieux. Donc ça, ce sont les raisons. J'aimerais maintenant que nous, on comprenne, entre hier et aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre ensemble Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, en 2021, on doit apprendre du 10 Tevet? Alors, comme tu l'as si bien souligné avant qu'on commence l'enregistrement, le 10 Tevet est un jour très important. Pourquoi? Eh bien, parce que ce jeûne du 10 Tevet a la force de Yom Kippour. Pas dans le sens que ce sont les mêmes halakhot qu'à Yom Kippour, mais dans le sens où si jamais il tombait Shabbat, eh bien, on jeûnerait également pendant Shabbat. C'est ce qu'écrit Rabbi David Abu Dharam dans son commentaire de la Tefila, Seder HaTfilot veHaTa'aniyot, nous dit Vetzarich Hata Ladat, donc tu dois savoir, She'im Ainu Mekadeshim Lefi Areya, si on avait fait Rosh Chodesh comme à l'époque en fonction de la vue de la nouvelle lune et pas d'un calcul dans lequel on a rentré dans le calcul actuel des techniques pour que certains jours ne tombent pas certaines dates. Et effectivement, on s'est arrangé que le 10 Tevet ne tombe pas un Shabbat. Mais à partir du moment où tu fais le Kiddush HaChodesh avec la vue de la nouvelle lune, ben ça peut être n'importe quand. Et donc, certes, aujourd'hui, on s'est arrangé que le 10 Tevet ne tombe pas Shabbat, mais si il tombait Shabbat, eh bien, on jeûnerait pas. On jeûnerait, attends pour moi, pendant Shabbat, comme Yom Kippour. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le livre de Yechezkel, au chapitre 24, lorsqu'on nous parle du dit Tevet, on nous dit Ben Adam, Ktov lecha et Shem ayom et etzem ayom aze, Samach meler Bavel al Yerushalayim be etzem ayom aze. C'est-à-dire que le dit Tevet est appelé l'essence de ce jour, et le Talmud nous explique que dans la mesure où Yom Kippour aussi est appelé l'essence de ce jour, eh bien, de la même façon qu'on jeûnera Yom Kippour même si c'est Shabbat, eh bien, on devrait jeûner le dit Tevet, même si c'est Shabbat. Donc, c'est une journée très importante. Mais la question est, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on doit apprendre du dit Tevet aujourd'hui? Le dit Tevet, la bataille, est un jeûne très, très, très différent du jeûne du 17 Tammuz, ou du jeûne de Guédalia, ou du jeûne de Tisha B'Av, qui sont des jeûnes suite à un drame. Alors que le dit Tevet, c'est un jeûne suite à une lanterne rouge qui s'est allumée. Et ça n'a rien à voir. Le jour du dit Tevet, les trois événements que nous avons cités, eh bien, ne sont pas encore la tragédie accomplie. Lorsque Nabucodonosor vient faire le siège de Jérusalem, il n'a pas encore détruit la ville. Le Beth Amikdash n'est pas encore tombé. Lorsque la Torah a été traduite en grec sous Ptolémée II Philadelphos, eh bien, nous ne sommes pas du tout encore dans les xérotes d'Antiochus. Et lorsque Hitler monte au pouvoir le 30 janvier 1933, ce n'est pas encore la solution finale. En d'autres termes, le dit Tevet, c'est un jeûne qui vient nous mettre en garde d'une réalité qui va peut-être arriver. Et j'aimerais qu'on revienne ensemble sur ces trois événements qui se sont passés pour comprendre qu'en fait, il s'agit de trois dangers qui guettent le peuple d'Israël. Quels sont ces trois dangers? Eh bien, nous avions le premier, c'est le danger de l'exil. Nabucodonosor nous emmène et nous fait poindre devant nous le danger de la perte de l'indépendance juive. C'est ce qui va d'ailleurs arriver. C'est-à-dire que le danger mis en avant par la première date du dit Tevet, c'est tout simplement la destruction de l'identité nationale d'Israël. C'est la nation qui part en exil. La deuxième date du dit Tevet, celle donc de la traduction de la Torah en grec, il ne s'agit plus du danger de l'exil, puisqu'on est déjà en exil, mais il s'agit de la destruction individuelle de l'identité. Puisqu'on veut faire de toi un grec. On ne veut pas te tuer, on veut faire de toi un grec. Et la troisième dimension, c'est le troisième danger, celui qu'on voit avec la Shoah, c'est le danger de la destruction physique de l'individu et de la collectivité d'Israël. D'accord ? Donc nous avons trois dangers qui sont, j'allais dire, pas prévus, mais ce n'est pas le bon mot, mais qui sont annoncés par le dit Emet. Et comme vous l'aurez compris, le but, c'est d'être chacham et de voir ce qui va se passer avant qu'il ne soit trop tard, que ce soit passé et que je ne puisse plus rien y faire. Et c'est là que nous devons nous poser plusieurs questions. Aujourd'hui, la question de l'exil semble être réglée. Nous sommes rentrés à la maison. Mais qu'en est-il de la majorité, pour l'instant encore, de très peu, mais la majorité de nos frères qui sont encore en Chutz la'aretz? Qu'en est-il à ce niveau-là? Est-ce que ils ne sont pas en danger du même problème que Nebuchadnezzar nous amène? N'y a-t-il pas un danger d'annihilation au niveau national pour ceux qui auraient décidé de ne pas revenir? C'est une vraie question. Pourquoi je dis que c'est une vraie question? Eh bien parce que à l'époque babylonienne, bien des juifs sont partis en exil, ne sont pas revenus et ont disparu dans les limbes de l'histoire. Je parle de Babylone, j'aurais pu commencer avec l'Égypte. En Égypte, nous le savons bien, le fameux commentaire de Rashi à propos du verset de la paracha de Béchalar qui nous dit « Vechamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim » nous dit Rashi « Ma zechamushim echad michamesh » C'est la deuxième explication de Rashi qui nous dit « Echad michamesh » c'est-à-dire seulement un cinquième, 20% du peuple juif est sorti d'Égypte. Tout le reste a décidé de rester sous influence exilique. Et nous dit le Midrash, ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés comme ça. Ça veut dire qu'ils sont tout simplement, eh bien, disparus dans les limbes de l'histoire égyptienne. Ils ne font plus partie de l'histoire d'Israël. Alors le danger est très grand. Parce que évidemment que l'exil au niveau national fait de facto de nous des juifs communautaires. La nation est mise à mal, je ne vais pas dire qu'elle n'est plus, mais elle est mise à mal, puisque nous sommes maintenant des Keilot, c'est le problème de l'exil, que lui il est là, et lui il est là, et lui il est là, et lui il est là, on est toléré par les pays dans lesquels ben, nous avons été exilés, et nous devenons des communautés. Des communautés, ce sont des assemblages d'individus, à la différence de la nation qui a une identité collective. La communauté, ce sont des individus. Et lorsque nous nous retrouvons dans cette dimension communautaire, qu'est-ce qui reste, c'est-à-dire, de notre attachement à la notion de nation? Nous dira le Rav Kook, dans son livre Orot, que qu'est-ce qui nous permet de rester connectés au peuple d'Israël en exil? Zatzipia la Yeshua. Atzipia la Yeshua. Hi akoach ama'amid shel ha'yahadut agalutit. L'espoir de la délivrance, c'est la force qui maintient le judaïsme d'exil. En d'autres termes et en français, ça veut dire que ce n'est que parce que nous avons continué à dire l'an prochain à Jérusalem, qu'on a pu revenir à Jérusalem. L'espoir d'un retour national a maintenu l'individu en exil. Mais à partir du moment où il n'y avait plus cet espoir-là, eh bien, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux, pourquoi ? Parce que tu te détaches d'abord de ton frère juif, puisque tu as une autre idée, ça y est, il n'y a plus de projet commun, et donc le juif qui partage tes idées, pourquoi pas, mais celui qui ne les partage pas, nous n'avons plus rien en commun. Et pour le juif qui habite en Allemagne, il n'y a rien en commun avec le juif qui habite au Maroc. Si nous n'avons plus l'espoir d'un retour national. Donc, le premier danger, c'est ben, la perte de du repère collectif. Ensuite, lorsque nous devenons des individus, eh bien arrive le terrible problème numéro 2, qui est l'assimilation culturelle. Et là, nous ne sommes que trop au courant de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas, hier, au moment où, avec Givat Shmuel, nous étions dans la ville d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, lorsque nous étions à Hebron, eh bien, au même moment, il y avait, si je ne m'abuse, il y avait un juif en France, à Villepinte, qui prenait haut et fort l'assimilation. Un juif qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, un juif qui prétend diriger la France et qui prône haut et fort l'annihilation de l'identité d'Israël. Il faut devenir des Grecs de confession israélite. Version 2021, des Français de confession israélite. L'assimilation gagne. Maintenant, ça ne change rien du fait que l'individu va continuer peut-être à pratiquer, on va dire, un espèce de folklore judaïque. Ce n'est pas le débat. Parce que à partir du moment où le projet d'assimilation est mis en place, eh bien, la pratique folklorique va durer une génération, pas deux. Et si elle dure deux, pas trois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus possible. Il faut bien comprendre que c'est un leurre de pouvoir garder un attachement à la Torah, à la pratique de la Torah, sans être connecté à l'identité collective d'Israël. C'est complètement impossible. Car toute la Torah et les mitzvot ne sont que le moyen de se connecter à l'intégrité et l'entièreté d'Israël. Je rappelle des choses qui sont évidentes, j'enponce des portes ouvertes, mais je rappelle que les lois de la cacheroute, par exemple, les lois de la cacheroute sont là à la base pour, pas pour nous donner une spécificité sanctuaire au niveau du repas, mais pour nous séparer des non-juifs et de nous retrouver ensemble en tant que juifs. C'est ça, les lois de la cacheroute. Et donc, quelqu'un qui voudrait se ressentir uniquement individuellement, qui n'en a rien à faire de la destinée collective du peuple d'Israël, qui est individuellement quelqu'un de pratiquant, mais qui a décidé de s'attacher à une autre identité, mais la cacheroute, ça ne veut plus rien dire. La cacheroute, c'est donc à ce moment-là, comme quelqu'un qui est diabétique et qui donc ne peut pas manger telle et telle chose, ou quelqu'un qui est allergique au gluten, et il y a quelqu'un qui est allergique au plat pas cachère. Mais ce n'est qu'un problème ponctuel à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec la mitzvah de cacheroute. Sans compter le fait que tu es obligé de renoncer à une partie des mitzvot si tu veux rester un individu qui a embrassé une autre cause collective. Car l'essentiel des mitzvot, c'est le collectif, c'est la terre d'Israël, c'est le collectif en terre d'Israël. Donc, si le premier danger du dit Tevet, c'est le départ en exil, la disparition de la nation, le danger numéro 2 du dit Tevet, c'est la disparition de l'individu juif en exil. Comprenez, ça passe par étapes. C'est d'abord, on perd notre dimension nationale et on devient des individus en exil. Et la deuxième étape, l'assimilation, fait de nous des individus qui ont perdu leur spécificité et qui se noient dans l'exil. Et c'est là qu'intervient la troisième date du dit Tevet. La troisième date du dit Tevet, on a compris, la Shoah, la destruction physique du peuple juif, eh bien, vient quelque part terminer le processus, détruire le corps du juif, mais d'un autre côté, ça vient également tirer une autre signal d'alarme par rapport aux deux premières réalités. Car combien sont les juifs assimilés qui se sont vus en danger dans la Shoah ? Énormément. Des gens qui ne se rappelaient peut-être même plus qu'ils étaient juifs, des gens qui avaient fait une croix sur le judaïsme, ont été rappelés à leur identité par les ennemis d'Israël. La troisième étape est donc un garde-fou, finalement, contre une assimilation complète. Parce qu'on sait tous très bien qu'il n'y a pas de plus grand moyen de réunir les Juifs que de les persécuter. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire regarder les Juifs en direction de la terre d'Israël que de les persécuter à l'extérieur. Je vous rappelle ce panneau qu'on voit affiché à Yad Vashem qui traînait dans les rues de Munich, Berlin, dès 1933, qui disait « Achtung Juden, juif, faites attention, le chemin de la Palestine ne passe pas par l'Allemagne. » En d'autres termes, vous n'avez rien à faire ici. Donc, évidemment que la persécution physique du peuple juif va, un, nous ramener à notre conscience nationale parce qu'on n'a pas le choix, et deux, va nous ramener à notre identité individuelle de juif parce qu'on ne nous laisse pas le choix. En d'autres termes, la troisième sonnette d'alarme du dit Tevet, c'est la sonnette d'alarme, lanterne rouge, quoi. C'est le moment où il n'y a plus rien d'autre à faire. Tu as tout essayé pour qu'Israël se réveille à son identité. Rien n'a marché. Bon, bah, la persécution. Rappelez-vous les paroles du Rav Kook juste après la montée de Hitler au pouvoir dans son célèbre texte des Shofarot. Lorsque le Rav Kook nous dit que la Géoula, elle est en trois possibilités. Soit tu entends l'appel de Dieu parce que c'est l'appel de Dieu, Shofar Gadol, et tu reviens dans ton identité et dans ton pays parce que tu comprends que c'est la volonté du Créateur, ou alors parce que tu es déjà assimilé au niveau de la pratique, mais pas au niveau de ta nation, et tu veux recréer ta nation, comme tous les autres peuples, Shofar Benoni, ou alors tu n'entends ni l'appel de la Kedusha, ni l'appel de la normalité d'un peuple à être sur une terre, alors, eh bien, tu seras bien obligé d'entendre la persécution. En vérité, le dit Tevet, c'est prendre conscience à laquelle des étapes nous sommes aujourd'hui. Baruch Hashem, au niveau national, nous avons un drapeau. Nous avons retrouvé, eh bien, notre cohésion et notre réalité de la nation. Donc, j'ai envie de dire que le dit Tevet de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, a été corrigé. Mais le danger de l'assimilation règne énormément. Il règne en France, mais il règne également en Israël au niveau de l'assimilation culturelle. Et j'allais dire que même si en Israël, on est vachement pour mieux loti qu'en France, il n'empêche que nous avons une responsabilité par rapport aux Juifs de France, aux Juifs d'ailleurs, l'homme chané, je parle de France, mais c'est vrai pour les Juifs du monde entier. Parce que si toi, tu as entendu l'appel et que tu es venu, est-ce que tu as le droit de laisser ton frère là-bas ? En Égypte, on a laissé nos frères là-bas. À la sortie de l'exil de Babylone, on a appelé nos frères à venir, mais on les a quand même laissés là-bas. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de les laisser là-bas. Il y a une responsabilité collective qui incombe à chaque personne qui a fait déjà le chemin de l'écoute de l'appel de Dieu, de faire entendre cette voix à d'autres. C'est une responsabilité fondamentale. Le dit évêque sera toujours une date qui sera celle qui entoure la fin du livre de Bereshit. Et on se rappelle de la réponse de Yehuda dans la paracha de cette semaine, dans Vaïgash. La réponse de Yehuda lorsque Yosef veut séparer Binyamin du reste du peuple juif. Yosef a un avis très clair sur la question. Yosef a pris le parti de l'exil. Yosef a décidé qu'il allait créer un Beit Rabat version Yosef là-bas, en Égypte. Agave, ça marche super bien. Ça marche super bien. Il réussit à faire des allumages devant la grande pyramide. Ah, fallait voir l'allumage de Hanouka de Yosef devant la grande pyramide de Gizeh. Un truc de fou. Il donne des soupes gagnantes à toute la famille royale pharaonique. Il n'y a aucun problème. Et j'allais même jusqu'à dire qu'il va réussir à inventer une nouvelle langue qui s'appelle le hiéroglyphite. Eh oui, on mélange un peu d'allemand, un peu d'hébreu, ça te fait du yiddish. Ben lui, il mélange du hiéroglyphe, de l'hébreu, ça te fait du hiéroglyphique. Pas de problème. Et ça marche. Je vais... qui vont maintenant s'attacher. On va même voir dans notre paracha que Yosef, finalement, d'après nos sages, va même presque imposer la circoncision aux Égyptiens. Lorsque, tu sais, finalement, les Égyptiens, ils n'ont plus à manger. Et à chaque fois, ils reviennent voir Yosef en disant « Fais quelque chose, fais quelque chose !» Et Yosef, au début, il dit « Vendez-moi tous vos biens, vendez-moi ci, vendez-moi ça, et je vous donne en contrepartie. » Et à la fin, ils n'ont plus rien. Alors, il dit « Vendez-vous à moi !» Et Chazal nous dit « Qu'est-ce que ça veut dire « Vendez-vous à moi ?» Brit Mila, allez hop ! Brit Mila contre un morceau de pain.
Pourquoi ils voulaient que les Égyptiens fassent la Brit Mila ? C'était quoi l'idée ?
Ben, l'idée, c'est de rattacher le plus grand nombre de personnes au projet divin. Évidemment que ça sonne bizarre. Il veut en faire des Égyptiens de confession israélite. C'est-à-dire que Yosef, il faut bien comprendre que dans jusqu'à la fin de du livre de Bereshit, jusqu'à la fin de Vayéhi, Yosef, c'est un juif d'exil complètement. Je veux dire, on y revient tout le temps, les amis, mais cette polémique autour des prénoms, on en parlait hier quand on était à Hebron, mais cette polémique, elle est fantastique. Parce que, encore une fois, bien sûr que le nom que tu donnes à quelqu'un, à ton fils, il veut dire quelque chose. Je donne un exemple. On m'a demandé il y a un mois, un peu moins d'un mois, il y avait une Brit Mila. Et le père m'appelle la veille de la Brit. Il me dit, Arav, il faut que je te pose une question. Je sais que tu vas comprendre pourquoi je te pose la question. On a trouvé le nom qu'on veut donner à notre fils demain, Bezrat Hashem, mais on m'a dit là maintenant qu'il y avait un vrai problème. qui avait un vrai problème à l'Afrique de donner ce nom-là. Donc, je veux savoir ce que tu en penses. Alors, je lui ai dit, mais c'est quoi le nom ? Il dit, bah, justement, ça te concerne. Je lui ai dit, quoi ? A priori, Ethan, il n'y a pas de problème, c'est un nom bien. Il dit, non, c'est pas Ethan, c'est on veut l'appeler Ouria. Comme ton fils, comme mon fils. Mon fils s'appelle Ouria. Donc, il dit, voilà. Alors, j'ai dit, ah, alors pourquoi on t'a dit que c'était un problème ? Il dit, bah, parce que on n'a pas le droit de donner des noms de personnes qui ont été pas bien. Or, a priori, Ouria Achiti, dans l'histoire de Ouria, le mari de Bathsheba, c'est toute une histoire contre David qui n'est pas top top du côté de Ouria. Il était moré de Bamalchut. Pas cool. Est-ce que c'est ça le nom que tu veux donner à ton fils ? C'est comme les gens aujourd'hui, les Israéliens, qui appellent leurs enfants Nimrod. Alors, est-ce que Ouria, c'est Nimrod ? Ça a l'air ? Donc, je commence à lui expliquer ça. Et il dit, mais attends, mais je comprends pas. Tu es en train de me dire qu'il ne faut pas l'appeler Ouria, mais tu as appelé ton fils Ouria. Alors, je lui dis, d'abord, je pourrais te dire que Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Arebe Mishbitzer, Baal Mea Shiloach, il nous dit que c'est Ouria qui avait raison contre David. Bon, mais il n'empêche que, comme on dit en arabe, passe nicht. Voilà, hein, c'est un peu comme ça. Alors, je lui ai dit, mais c'est pas ça la question. Zenachon, il ne faut pas donner les prénoms de personnes qui sont problématiques, qui ont été des réchaïm. Mais, dans la halakha, on nous dit, mais s'il y a un nom qui a été porté et par un rachat et par un tzaddik, ça peut arriver. Il y a deux personnages différents dans l'histoire qui ont porté le même nom. Il y en a un qui a été pourri et l'autre qui a été très bien. On se rappelle de la pièce de théâtre ou alors du film, chacun ce qu'il a vu, le prénom. Il y a eu des Adolphe qui étaient bien.
Le prénom Ishmael, il y a Ishmael et Rabbi Ishmael.
Exactement, par exemple. Même si c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de gens qui appellent leur fils Ishmael. Mais effectivement, si tu décides d'appeler ton fils Ishmael, t'as quand même Rabbi Ishmael qui est un bon, enfin une bonne théodat bitoire, une assurance. Alors j'ai dit, c'est pareil. Ouria, ça peut être Ouria Achiti, mais c'est également Ouria Anavi. Il y a un prophète dans le livre de Jérémie qui s'appelle Ouria, qui est prophète en même temps que Yirmiyahu Anavi. C'est un Navi, prophète. Ça peut être aussi Ouria, un de ceux qui doit transmettre la Torah au peuple juif dans le livre de Néhémia. Donc, est-ce que c'est Ouria Achiti ou est-ce que c'est Ouria Anavi, Ouria Sara Torah ? Donc, en fonction de ce que tu choisis, eh bien, tu vas donner le kivoun, Yosef, le kivoun, la direction. Yosef, quand il appelle son fils Menaché, qui n'a chani Elohim et kol amali et kol betavi, parce que Dieu m'a fait oublier les problèmes que j'avais et la maison de mon père. Lorsqu'il va appeler son deuxième fils Ephraim, qui frani Elohim beretzoni, car Dieu m'a fait réussir ici, là-bas, en exil. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici déjà d'une prise de position de Yosef ? De dire « je veux oublier la maison de mon père et je veux kiffer l'exil ?» J'ai dans ma communauté un garçon qui vient d'avoir un fils, qui a fait la Brit Mila là vendredi et qui a appelé son fils Golan. Alors moi, j'ai dit, c'est bien, ça aurait pu être Bashan. Parce que Golan, c'est le nom de la région qui s'appelle Bashan dans la Torah. Les grands-parents, qui sont des Français de longue date, qui ont fait leur alia depuis longtemps, n'ont pas l'habitude d'avoir des noms qui sont des noms de région, des noms de ville ou de quoi que ce soit. Donc ils plaisantent en disant, t'aurais pu l'appeler Alsace-Moselle. Tu n'étais pas obligé de l'appeler Golan. Maintenant, ces plaisanteries, elles sont sympathiques, mais non. parce que tu décides de l'appeler Golan, ça veut dire que tu le réfères à la terre d'Israël. C'est pas un nom parvé. Si tu appelles quelqu'un Shiloh, ou si tu appelles quelqu'un Israël, ou tu appelles quelqu'un Yarden, Neveh. Putain, vous êtes un Bémet. C'est quand même pas compliqué hein, de faire un thé. Ils sont fantastiques, les gens. Les gens sont fantastiques. Donc, quand tu choisis d'appeler ton fils Paris, ça veut dire quelque chose. Et donc, évidemment, que Yosef, dans sa première partie de vie, quand il est en Égypte, il idéalise l'exil. Lorsqu'il prend Binyamin et qu'il veut le séparer du reste du peuple juif, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que Binyamin va faire partie du peuple yosefique. Il deviendra un Égyptien de confession yosefique. Yehuda arrive à ce moment-là et dit cette phrase incroyable. Il ne dit pas du tout. Ce n'est pas possible parce que Nafsho Kshura Benafsho. Alors Nafsho Shelmi, Kshura Benafsho Shelmi. Nafsho Shel Binyamin, hein?
De Yaakov.
D'Israël. Qui a permis d'envoyer Binyamin en Égypte, au final? Celui qui a refusé, c'est Yaakov. Mais celui qui finalement permet, c'est Israël. Au début, Yaakov ne veut pas. Il dit quoi? J'ai déjà perdu un fils, Yosef. J'ai déjà perdu Shimon. Tu veux que je perde Binyamin aussi? Et Yehuda, il lui dit, « Anochi et Ervenu. Kol Israël arevim zebazé. » Je, moi. Et donc, va y gaber Israël. Et à ce moment-là, Israël lui dit, « Ok, c'est bon. Tu peux y aller. » Yehuda dit à Yosef, ne sachant pas encore que c'est Yosef, il dit, « Venafsho kshura benafsho. » Donc, puisque Benafsho, Kshura Benafsho, ça veut dire une chose très simple. Là où il y a Binyamin, il y a Israël. Binyamin, c'est l'Israélos. Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël. C'est le Tzabar. Binyamin, celui qui n'a pas connu l'exil. Binyamin, c'est l'enfant de l'avenir. C'est l'enfant qui n'a pas à se justifier d'être qui il est. Je vous rappelle que Binyamin aussi, il a eu un problème de prénom au début. Puisque Rachel voulait l'appeler Ben Oni. Et Yaakov, il a dit non, ce sera Binyamin. Kilama, pourquoi Binyamin? Ki atid la'amod begoralo beketz hayamin. Ketz hayamin, c'est Ageoula. Là où se trouve Binyamin, c'est Ageoula. Et donc Yehuda dit, il est hors de question que Binyamin y reste en Égypte. Moi, je reste en Égypte. C'est quoi? Moi, je suis prêt à rester en Égypte. Parce que moi, je suis Yehuda. Moi, j'ai grandi en exil et j'ai la tzipia, l'espoir de revenir en Israël. Je suis revenu une fois, je pourrais revenir une deuxième fois. Mais Binyamin, il est le juif de la nation. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les miracles de leur entrée en Israël se font dans la tribu de Binyamin. Tous les miracles qu'on voit dans le livre de Yehoshua, que ce soit Shemesh Begivondom, que ce soit les pierres qui tombent du ciel, que ce soit l'ouverture du Jourdain, tout se passe dans le territoire de Binyamin. Al Zenehemar ou Ben Ketefav Shachen. Que Akadosh Baruch Hu réside sur les épaules de Binyamin. C'est pour ça que le Beth Amikdash est dans la tribu de Binyamin, évidemment. En d'autres termes, Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lors de question que Binyamin reste là-bas parce que Binyamin est notre lien avec la sortie de l'exil. Et en fait, c'est de cela qu'on parle. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de ceux qui ne sont pas encore là. En malasot. Comment est-ce qu'on doit leur parler à ceux qui ne sont pas encore là? Eh bien, ça dépend. Tu as trois versions du dit Tevet. Et donc, trois discours différents à tenir en fonction de la personne à qui tu parles, du moment et de l'endroit. Est-ce que tu dois parler de l'imminence de la persécution? Est-ce que tu dois parler du sauvetage de l'identité? Ou est-ce que tu dois parler de nation? J'étais en France la semaine dernière, Shabbat dernier. J'étais extrêmement bien accueilli d'ailleurs dans la communauté de Saint-Brice. Très très bon, enfin j'ai eu un très très bel accueil. Et c'était vraiment un Shabbat très très fort pour moi. J'ai dit là-bas que c'était la communauté de Brice Koidesh, Saint-Brice. Et dans l'une des... J'ai fait le tour de plusieurs synagogues. Et à chaque fois, vraiment, hein, enfin, non seulement on m'a laissé parler enfin à 100%, mais en plus, on voyait que les gens, ils étaient très contents de ma venue. Pas parce que c'était moi, mais de voir quelqu'un qui vient d'Israël qui vient parler. Et même dans les communautés où, a priori, le sionisme n'est pas la priorité maximum, enfin, vraiment, très, très bon accueil. Il y a un endroit où le rav de la communauté, et c'était vraiment pas méchant, hein. Je pense qu'il pensait vraiment que c'était ça que j'étais venu faire. Il me présente en disant, voilà, le rav Tanfison, il est là, c'est le rabbin de l'agent juive qui est venu nous parler. Alors, j'ai dit non. Non, je suis pas le rabbin de l'agent juive. Je suis pas venu pour vous demander de faire l'alia. Et il était très choqué. Il dit, comment ça? Tu viens d'Israël, tu vas pas nous parler de faire l'alia? J'ai dit non. Ah, évidemment, tu me demandes, est-ce que je pense qu'il faut que tu fasses ton alia? Ouais, je pense. Mais c'est pas de ça que je suis venu te parler. Et à des rabbins, on n'a pas parlé de ça du tout. On n'a pas parlé de ça du tout. On a parlé uniquement de la notion de beauté dans le judaïsme, dans l'idéal par rapport à la réalité. Rien à voir. Et à la fin, on est venu me voir d'autres personnes qui m'ont dit « Mais alors, tu veux qu'on fasse l'alia ?» Tu comprends que la question est de savoir quelle est l'urgence du dit évêque d'aujourd'hui. Est-ce que l'urgence, c'est le sauvetage face à un nazi qui vient nous massacrer? Honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ça, à mon avis, le combat. Est-ce que le combat est le danger de l'exil? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit ça le combat. Parce que Baruch HaShem, on est sorti d'exil. Parce que Baruch HaShem, on est redevenu indépendant. Je ne pense pas que ce soit ça le combat. Mais est-ce que plus que jamais, le combat aujourd'hui est un combat de traduction de la Torah en grec? Oui, je le pense fermement. Le dit Tevet de 2021, c'est pour moi la nouvelle version du dit Tevet des années moins 200. C'est la nouvelle version de l'assimilation culturelle. Le danger qui plane aujourd'hui sur le peuple d'Israël, évidemment plus en Chutz La'aretz qu'en Israël, mais également en Israël, c'est la perte complète des repères. Hier soir, j'étais allumé la dernière bougie, enfin, après l'avoir allumé à la maison, quoi, j'ai été à Mamila, à la Mamila à Jérusalem, et il y avait le grand allumage. Chabad, ils ont fait ça en grand, c'était très sympathique, il y a baigné de toutes les couleurs, VFME. Mais sur le chemin entre ma maison et la Mamila, je suis passé par la rue Ameler David. Et qu'est-ce qu'il y a dans la rue Ameler David? Il y a l'hôtel King David. Seulement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y avait en face? Ben, il y a l'hôtel YMCA. Et sauf que, mes amis, nous sommes début décembre et que le YMCA, totalement chrétien de sa position, a déjà mis en place toutes ces décorations de Noël. Si vous saviez le nombre d'Israéliens qui étaient en train de regarder les décorations du sapin, des Israéliens, pas des chrétiens. Pas qu'on ne peut pas être chrétien israélien, mais en l'occurrence, des Israéliens juifs. Alors, ils vont te dire, mais non, mais c'est juste joli et tout. C'est pas la question. La question est de savoir, est-ce que petit à petit, on n'est pas en train de t'apprendre, que ce soit en Israël ou ailleurs, qu'il faut être tolérant, qu'il faut apprendre aussi l'histoire de Jésus et tout ça, et que petit à petit, bah, ton histoire, tu la connais moins. J'ai pas arrêté de fustiger cette année, comme les années précédentes, qu'on ne connaît pas assez bien la fête de Hanouka. Et que quand on est français, Be'al Kochenu, c'est contre notre volonté, mais on connaît plus l'histoire du petit Jésus que l'histoire de Yehuda Maccabi. C'est une réalité. Et tu ne vas pas me donner comme exemple, non, il y a peut-être un mec qui habite au Rinci, à Merkaz HaTorah, et que lui, il ne connaît pas le petit Jésus. C'est-à-dire, de manière générale, les Juifs connaissent plus cette histoire que cette histoire. Et donc, je pense que si on a dit que Asara Betevet, c'était Ezeu Chacham Aroet Anolad, eh bien, aujourd'hui, le défi du dit Tevet actuel, c'était le défi de l'assimilation culturelle. Nous avons, Baruch HaShem, terminé avec le danger de la destruction nationale. Le drapeau d'Arjac nous montre que ça y est, le problème de la nation est réglé. Baruch HaShem aussi, et grâce au drapeau et à la nation, et évidemment grâce à Dieu, le danger qui plane sur la destruction de chaque juif, du peuple juif dans son physique, là aussi, je ne me fais pas de soucis. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir malheureusement, Khalila, un pigoua ou enfin, un attentat ou des violences contre les juifs. Mais on va dire que je ne vois pas pointer la possibilité d'un danger de destruction du peuple juif au niveau physique. La Shoah, à mon avis, ne peut plus se représenter. Mais la disparition de l'individu juif au niveau culturel, eh bien ça, c'est le danger, à mon avis, de notre génération. Encore une fois, Am Israël, il va rester. J'ai aucun problème. Am Israël, il va rester. Netzach Israël, lo yishaker ve lo yishaver. L'éternité d'Israël, elle est là. Mais je suis responsable de celui qui, peut-être, va jouer la carte de l'assimilation à la Zemmour. J'en suis responsable. Et c'est donc, à mon avis, ce qu'on doit prendre comme, j'allais dire, comme décision dans le dit Tevet de notre année. Dans le dit Tevet de notre année, eh bien, il faut se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler ce qui va être, par exemple, marqué dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan, kol makom sheneemar vayeshev, eino ela leshon tzar. Sheneemar vayeshev Israël beeretz goshen, vayekrevu yeme Israël lamut. Dans la fin de notre paracha, Yaakov, Israël, arrive en Égypte, est installé par son fils Yosef à Goshen, et on dit « Vayeshev Israël, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, Vayachazuba, Vayifru, Vayirbu Meod. » On s'installe et petit à petit, on perd notre identité. Je ne vais pas nous dire que le danger, c'est de partir en exil et de s'installer. Ça y est, pendant 2000 ans, on était là-bas. Maintenant, le travail, c'est de rassembler les identités et de les faire revenir à l'identité avec un grand I d'Israël. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement, ça passe par leur montrer un idéal de vie en Israël qui fait plaisir et qui fait bon vivre à ce niveau-là. Mais c'est absolument notre responsabilité. Rabbi Yonatan Haïbeshitz disait, lorsque tu vois un homme sans barbe, tu dois te considérer toi comme ayant une moitié de barbe. Bon, semble-t-il qu'à l'époque, la barbe était symbolique de celui qui est dans la Torah. Eh bien, sache que si tu vois un autre juif qui n'a pas de barbe, ta barbe, elle est que de moitié. Tu es responsable de lui. Et donc, si le dit Tevet est un jeûne si important que si ça tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat, c'est peut-être parce que c'est le jeûne, comme on a dit, où on ne pleure pas sur une situation qui s'est déjà passée, mais on prévient une situation qui ne doit pas se passer. L'assimilation culturelle, elle grandit, et c'est maintenant que nous devons nous battre, peut-être encore plus lorsque un de nos frères prône cette assimilation au plus haut degré de la France, et peut-être demain également au plus haut degré des États-Unis. C'est maintenant qu'il faut ramener la question identitaire. À mon avis, ce n'est pas pour rien que Dafka maintenant, alors que la sécurité physique du peuple d'Israël est assurée, que la dimension globale et collective et nationale d'Israël est assurée, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des juifs assimilés qui crient haut et fort, qu'il faut s'assimiler, peut-être que c'est pour que nous réagissions et nous disions, eh bien non. Eh bien non. Et même toi, Monsieur Zemmour, eh bien, tu dois faire tchouva. Même toi, tu peux te rattacher à une identité. J'ai entendu son discours et il ne tarit pas d'éloges sur tout ce que la France a apporté, la culture, son histoire, ce que tu veux. Et même si je ne vois pas de fausses notes dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que effectivement, à ce niveau-là, je parle pas de tout, hein, évidemment, mais au niveau du fait que la France est une grande culture, que c'est un grand pays, une grande histoire, ce que tu veux, et c'est très vrai, mais c'est pas moins vrai pour l'histoire d'Israël. Quoi, Israël, elle n'a pas une histoire? Elle n'a pas une culture? Elle n'a pas un langage? Elle n'a pas une littérature? Elle n'a pas des choses à apporter? Vadaï Sheken, semble-t-il qu'on lui a pas assez vendu ça, et qu'il s'est plus retrouvé dans Chateaubriand que dans Rabbi Yehuda Halevi. C'est un vrai problème. Peut-être qu'on ne lui a pas fait connaître Rabbi Yehuda Halevi. Et je pense qu'il n'est que le représentant de ce qui est en train d'arriver à énormément de nos frères. Et à Sarah Betevet, c'est le moment où on dit « Je ne suis pas d'accord de les abandonner. » Anochi et Ervenu Kinafsho Kshura Benafsho. C'est à mon avis le message du dit Tevet de 2021. Bayami Mahem. Bazeman Azé. Erev Tov Lekoulam.
Merci beaucoup. Mais tu penses que Yosef, quand il était donc en exil et tout ça,